Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment
ressuscité.
Il est vraiment
ressuscité.
C'est la plus grande joie des chrétiens. Car sa résurrection confirme qu'il est Dieu, qu'il est fidèle à ses promesses. Vainqueur du péché, vainqueur de la mort. Elle garantit sa résurrection, aussi notre propre résurrection, et l'espérance d'un nouveau monde, sans mal, ni souffrance, ni larmes. Le bonheur dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Mais nous croyons sans avoir vu. Nous n'étions pas là pour voir Jésus mourir. Nous n'étions pas là pour le voir ressusciter. Et nous n'étions pas là pour le voir monter au ciel, n'est-ce pas? Qui était là? Alors comment faut faire pour croire? Sans voir? Comment avoir une foi solide sans preuve visible? Jean 20 répond à cette question. En fait, tout l'évangile de Jean répond à cette question. Mais Jean 20 va être un peu plus fort que les autres. Ce chapitre nous montre que croire sans voir n'est pas une foi aveugle, mais une foi éclairée, fondée sur des témoignages réels, un tombeau vide, des rencontres bouleversantes et confirmées par l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus nous appelle à cette foi. Il dit même que ceux qui croient sans avoir vu sont heureux, bénis. Et il nous donne tout ce qu'il faut pour que cette foi soit possible. Ouais. Nous poursuivons notre série de prédications qui s'intitule « Dans l'intimité de Jésus ». Et aujourd'hui, nous entrons dans l'intimité bouleversante de la résurrection de Jésus. Alors, question. Comment croire sans voir? Comment croire sans voir? Comment croire à la résurrection de Jésus-Christ sans l'avoir vu? Premièrement, appuyons-nous sur des faits historiques solides. Appuyons-nous sur des faits historiques solides que nous donne la Bible, la parole de Dieu. Marie et les disciples, bonne question, ont-ils eu des hallucinations? Ont-ils inventé de toutes pièces cette histoire de résurrection? Quand on lit bien, on affirme non, non et non. Parce que les récits des évangiles montrent au contraire leur peur, leur doute, leur incompréhension. Rien n'est enjolivé comme pour essayer de raconter une histoire en fait qui n'existe pas. Les disciples ne s'attendaient pas du tout à la résurrection. Oui. Regardons leur attitude. On commence dans donc Jean 20, la Bible, chapitre 1 à 10. Je vous laisse le temps de trouver cela dans vos Bibles. Jean chapitre 20, versets 1 à 10. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée, ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Alors, c'est marrant parce que c'est Jean qui écrit, mais il dit pas que c'est lui, mais c'est lui. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle. Et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Fin de citation. Alors, on s'est arrêté au verset 7. Alors, que se passe-t-il dans ce passage? C'est la panique. Ok? Jésus est mort, son corps a disparu, Marie de Magdala découvre le tombeau ouvert et vide, et immédiatement, elle pense au pire. On a volé le corps de Jésus. Marie court avertir Pierre, Jean. Pierre et Jean se précipitent. Arrivés au tombeau, ils trouvent les linges posés avec soin, restés là, sans le corps. Pas de désordre, pas un vol, en fait. Pourtant, Jésus leur avait annoncé, vous rappelez, qu'il ressusciterait. Ils le savent. Enfin, ils sont censés le savoir. Cela a été répété par Jésus. Mais, face au vide, personne ne crie victoire. Le tombeau vide n'est pas encore une preuve. C'est une énigme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, même ceux qui croyaient en la résurrection pensaient qu'elle viendrait à la fin des temps, pour tous les justes, en même temps. Mais l'idée qu'un homme ressuscite seul, en plein milieu de l'histoire, était inconcevable. Quelque chose d'incompréhensible est arrivé. Quelque chose que ni Marie, ni Pierre, ni Jean n'avaient envisagé. Quelque chose qui va peu à peu faire vaciller leur certitude et réveiller leur foi. Où sont les autres disciples dans cette histoire? Où sont-ils? Jean, chapitre 20, verset 19, nous dit « Les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. » Ces hommes auraient pu faire la fiesta puisque Jésus va ressusciter. Mais ils sont encore sous le choc. Pour eux, il était inconcevable que Jésus puisse réellement mourir. Ils attendaient un Messie triomphant, un roi capable de renverser l'oppression romaine et d'établir le royaume de Dieu en Israël. Et il faut dire que Jésus avait tout d'un héros, n'est-ce pas? Il enseignait avec une autorité remarquable, inégalée, accomplissait des miracles, guérissait les malades, ressuscitait même les morts. Comment un tel homme aurait-il pu, avec autant de puissance, de choses qu'il a démontrées, comment a-t-il pu être arrêté, humilié, battu, crucifié? C'était impensable. Il devait se demander, est-ce un accident, une erreur, un échec? Je ne comprends pas. La croix, à leurs yeux, n'était pas un signe de victoire, mais d'horreur. Pendant que pour Dieu, c'était la victoire. Et elle était remportée, bien sûr, par la résurrection. C'était, et en parlant de la croix, c'était la pire des morts, les amis, réservée aux criminels les plus méprisés. Et pourtant, c'est ainsi que leur maître a fini. Ils ont verrouillé les portes, battus, désorientés, convaincus que tout est fini. Pendant ce temps, quelques-uns sont allés au tombeau. Marie, Pierre, Jean. Et ils cherchent à comprendre pourquoi le corps de Jésus a disparu. Mais pour tous, une chose est sûre, Jésus est mort et tout semble s'arrêter là. Parmi les disciples, quand même, il y en a un qui était un peu plus prêt à croire. C'est d'ailleurs lui qui crie, notre cher Jean, qui se cache. C'est dit au verset 8, alors l'autre disciple, donc Jean, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans la tombe. Au début, c'était Pierre. Pierre, lui, comme d'habitude, fonceur, il est déjà dedans. Jean n'osait pas au début. Mais comme Pierre est rentré, on y va. Il est dit tout de suite, il vit et il crut. Wow, ça va vite là. Écoutez la suite. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Jean est le premier à croire. Il ne comprend pas encore tout, mais ce qu'il voit suffit à faire naître la foi. Peut-être Pierre aussi, parce que il est dit, en effet, jusque-là, il n'avait pas, et donc on parle des deux, compris que Jésus devait se ressusciter. Donc, ils sont en train de comprendre quelque chose. Tous les deux. Les linges, ce qui fait naître la foi, c'est les linges soigneusement roulés, et surtout, qui laissent penser que le corps a traversé les bandelettes. Il est dit qu'au niveau de la tête, c'est encore enroulé, à la même place. À ses yeux, et certainement aux yeux de Pierre, c'est comme une signature divine. Comme si Jésus disait, je suis passé par ici. Et j'ai vaincu la mort. Mais les autres disciples, eux, auront besoin de voir Jésus en personne pour croire. Et c'est exactement ce que Jésus va faire pour eux. J'ai l'impression que la foi de Jean et de Pierre est encore fragile, faible. Parce qu'on n'entend pas qu'ils sont allés dire aux autres, il est ressuscité. Ils vont rejoindre les autres, mais le texte est silencieux. Voyons les autres. Ou plutôt, attendons un instant. Prenons un instant pour réfléchir. Avant de croire, Pierre et Jean prennent le temps d'observer, de réfléchir. C'est intéressant cela. Le mot utilisé pour dire que Pierre voit, au verset 6, signifie littéralement « examiner avec attention, chercher à comprendre ». Il ne se contente pas de regarder, il réfléchit, il raisonne. Leur foi n'est pas naïve, les amis. Elle repose sur des faits réels, examinés avec sérieux. Et c'est important de relever ça aujourd'hui et de le rappeler. Beaucoup pensent que croire, les chrétiens croient, mais ils croient en mode, ils sautent dans le vide, c'est le saut dans le vide, quoi. Ils décident simplement de croire. Et d'ignorer les faits. Mais ce passage nous montre l'inverse. La foi chrétienne est une foi réfléchie. Et elle peut naître d'une réflexion honnête face à la réalité. La foi chrétienne n'est pas déconnectée de la réalité, les amis. Elle est une réponse lucide à ce que Dieu révèle. J'ose dire ceci, si notre foi chrétienne n'est pas nourrie par la réflexion et enracinée dans une compréhension profonde de la parole de Dieu, la Bible, elle restera vulnérable, faible, et ne tiendra pas face aux tempêtes de la vie. J'en ai vu, les amis. J'en ai vu des gens qui se disent chrétiens et qui ont tout abandonné. Parce que d'un coup, quelqu'un leur a dit, oui, mais la Bible est falsifiée, oui, mais ceci, oui, mais cela, et parce qu'ils n'étaient pas solidement ancrés dans la vérité. Et voilà aussi pourquoi nous prédicateurs à l'église de Zoar, nous devons prêcher la vérité. Nous devons vous prêcher la vérité. Alors oui, vous pourriez me dire, mais Manu, tu dis cela, mais les disciples, eux, ils ont vu Jésus et pas nous. On se calme. Nous aussi, nous avons d'autres preuves. Claires, nombreuses et historiques. Et certaines d'entre elles apparaissent déjà dans ce passage que nous voyons. Alors, laissez-vous toucher par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, au travers de ce texte. Regardons la suite. Jésus se présente à des moments différents dans ce texte. Jésus se présente à Marie. Marie pleure près du tombeau. Deux anges lui demandent pourquoi elle pleure. Puis Jésus lui-même lui pose la question. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui explique la situation. Et voici ce qui se passe au verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Un beau moment. Marie reconnaît ici que c'est bien Jésus. Il n'est pas mort! Il est vivant! Après l'avoir reconnu, elle passe des larmes à une joie immense. Il lui demande de ne pas la retenir sur terre. Et qu'il n'est pas le Jésus qu'elle pense, dans le sens, voilà, juste celui qui va rester là, sur terre, mais ce Jésus glorieux qui retourne auprès de son Père, de Dieu son Père, et qui va envoyer le Saint-Esprit. Et avant cela, il lui confie une mission. Allez annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Une chose à relever, Marie devient la première personne à voir le Christ ressuscité. Et la première envoyée pour le proclamer. Quel honneur! Quel honneur pour vous les femmes, n'est-ce pas? Quel honneur! Nous avons ici un signe fort de l'authenticité de la résurrection. Jésus est apparu en premier à des femmes. Alors, un détail qui peut sembler anodin aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était révolutionnaire. Dans la société du premier siècle, les témoignages des femmes n'avaient quasiment aucune valeur juridique. Elles n'étaient pas considérées comme des témoins crédibles dans un tribunal. Et pourtant, tous les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, rapportent ce même fait, les premières à voir Jésus ressuscité sont des femmes. Et Jean parle de Marie, de Magdala. Si les auteurs avaient voulu inventer un récit crédible pour leur époque, ils n'auraient jamais placé des femmes au cœur du témoignage. De nombreux historiens s'accordent sur ce point. Le fait que les femmes soient les premières à voir Jésus est une forte indication que ces événements se sont réellement produits. Et Jésus a montré son amour et la considération qu'il a pour les femmes, dans une époque où les femmes n'étaient pas considérées comme cela. Parlons maintenant des disciples qui sont cachés. Les disciples ont eux aussi cru, car Jésus s'est présenté à eux. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont enfermés dans la maison, dans une maison. Les portes sont verrouillées, la peur est palpable. Ils redoutent les autorités juives, celles-là même qui ont fait crucifier Jésus. Peut-être que s'ils viennent, nous aussi, on va y passer. Bah oui. Ils sont troublés, honteux, perdus. Et soudain, Jésus est là, au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. On peut bien comprendre. D'un coup, vous avez quelqu'un qui est là, alors que tout est verrouillé. Il a traversé le mur, elle a fait comment là? C'est un fantôme ou c'est quoi? Ben, c'est moi là. Pour les rassurer, Jésus leur montre ses mains et son côté pour qu'ils voient que ce n'est pas un fantôme. C'est lui. Donc ils peuvent toucher ses blessures, voir les marques des clous. C'est bien lui. Il est vivant. Alors leur peur fait place à la joie. Verset 20. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Jésus répète que la paix soit avec vous. Il apaise ainsi leur cœur. Il guérit leur peur. Il restaure leur confiance. Il les relève aussi de leur échec, puisqu'ils pensent à quelque chose. Ils avaient fui quand Jésus s'est fait arrêter. On peut imaginer Pierre, qui sait l'avoir renié. Ils avaient douté. Ils avaient oublié. Puis, Jésus ose faire une chose incroyable. Alors que eux sont enfermés dans la peur, on se dit, ils sont disqualifiés pour être en mission, n'est-ce pas? S'il y a bien une chose que Jésus ne va pas dire, c'est de leur dire, maintenant, je vous confie une mission, parce que là, c'était zéro pointé depuis la mort de Christ, depuis son arrestation. Et pourtant, Jésus dit au verset 21, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Quelle grâce! Quelle grâce! Les disciples sont envoyés dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, porteur du pardon et de la paix de Dieu, et tellement aussi conscient encore et encore de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Ils passent de la peur à la paix, de la honte à la mission, de la tristesse à la joie. Il reste encore un disciple difficile à convaincre. Il s'appelle Thomas. Soyez gentil avec ce gars-là, n'est-ce pas? Il vous a rien fait, hein? Malgré le témoignage des autres, il refuse de croire sans preuve. Peut-être craint-il que ses amis, encore bouleversés, s'accrochent à une illusion. Ah, il est peut-être... Peut-être qu'il va ressusciter. Allez, il est ressuscité. Une sorte de consolation qu'on se donne, vous voyez? Thomas veut voir, toucher, vérifier Sa foi doit reposer sur la vérité, pas sur une consolation. Et d'une certaine manière, il a raison. Écoutez la suite au verset 26 et 27. 8 jours plus tard, c'était long pour Thomas, hein. Il doit attendre 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux, puisqu'il n'était pas avec eux juste avant. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Encore une fois. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». À chaque fois, on sent que ça les fait trembler quand même. Hein. Puis il dit à Thomas, il s'adresse à Thomas, les amis. C'est fort. « Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Waouh. Ce qui est touchant ici, c'est que Jésus ne condamne pas Thomas. Il ne le condamne pas. Il connaît la loyauté de son disciple. Il connaît l'amour de son disciple. Jésus, au contraire, lui donne exactement la preuve qu'il avait demandée. C'est comme ce qu'on voit ici, une réponse à la prière de Thomas. Oui, oui, oui. C'était une prière formulée. Vous vous rappelez que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il n'a même pas demandé, il l'a dit, je veux voir. Mais Jésus le savait. Jésus vient à sa rencontre, là où il se trouve, au cœur même de son combat intérieur. Ça nous parle, cela. Si vous vous reconnaissez en Thomas, si vous doutez encore, sachez ceci, vous avez une place dans le cœur de Dieu. Vous avez une place dans le cœur de Dieu. Dieu n'a pas fini avec vous. Il vous aime et il comprend. Et il veut toucher votre cœur. Il connaît vos doutes. Il connaît vos luttes, vos questions. Et il ne vous exclut pas. Ce passage nous montre que le doute n'est pas un obstacle insurmontable à la foi. Au contraire, il peut être le point de départ d'une rencontre plus vraie, plus profonde avec Christ. Et même pour toi qui es chrétien peut-être depuis peu ou de longue date, et peut-être il y a des doutes qui viennent. Et ça fait partie, en passant, les doutes font partie de la foi, du chemin de la foi. Donc n'ayez crainte, hein, si vous êtes chrétien et que vous avez des doutes, bienvenue au club. Ok? Amen. Cela nous permet d'approfondir notre relation avec Dieu, de creuser davantage les Écritures, de chercher Dieu plus intensément et ainsi d'avoir une rencontre plus vraie et plus profonde avec Christ. À condition, bien sûr, comme Thomas, de chercher sincèrement Dieu, de se laisser toucher par Dieu, d'ouvrir notre cœur à sa vérité. Et Thomas, touché en plein cœur, s'écrie au verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Oh, il y en a tellement qui veulent dire n'importe quoi sur ce texte, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Jésus est Dieu. Mais que ces personnes sachent que le diable travaille à fond pour justement que les gens ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Ne faisons pas le travail de l'ennemi. Ainsi. Parce que on ne disait pas Dieu comme cela à l'époque. À cette époque-là, nous on peut... Les gens disent « Oh mon Dieu !» Ça se dit, voilà. Les gens disent facilement ça. Mais à l'époque, là, on ne sortait pas cela. Ils avaient tellement de respect pour le nom de Dieu qu'ils ne le prononçaient même pas. Comment vous pouvez dire que ce disciple, à un moment clé, où il est au cœur, où on est au cœur de sa foi, puisse dire « Oh, mon Seigneur est mon Dieu !» Non, mon Seigneur est mon Dieu. Ce n'est pas une réaction de surprise, c'est une profession de foi personnelle, puissante, profonde. Thomas reconnaît que Jésus est le Seigneur vivant. le maître de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu en personne est présent ici, dans cette maison. C'est à ce moment-là que Jésus adresse une parole pleine d'encouragement, non seulement à Thomas, mais aussi pour toi, pour moi. Écoute ça. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est Jésus qui a dit cela. Jésus ne rejette pas la recherche de preuves. Et je suis content de plusieurs qui ont écrit des livres et qui montrent tellement de preuves. Ou des gens qui ont plutôt cherché des preuves avec honnêteté et qui se sont convertis, qui ont compris que Christ est vraiment venu sur terre et qu'il a donné sa vie et qu'il est ressuscité. Jésus ne rejette pas la recherche de preuves. Il accueille même la démarche de Thomas avec bienveillance. Mais il élargit le regard. Il se tourne vers l'avenir, vers toi et moi, vers ceux qui croiront au témoignage transmis. Nous n'avons pas vu Jésus de nos yeux, comme les disciples l'ont vu, mais leur témoignage a été fidèle. Il n'y avait pas qu'un seul. Voilà pourquoi il y en a eu 4. Oui, mais ils disent pas exactement la même chose. Mais si tu vois un événement devant tes yeux et qu'on attend plusieurs jours et que chacun de vous écrit le témoignage, je vous assure qu'il n'y aura pas la même chose. Il y aura le même événement, mais il n'y aura pas exactement les mêmes détails. Voilà pourquoi on a 4 évangiles, pour attester la véracité de ce qui est écrit. Leur témoignage est fidèle, cohérent, transmis à travers les siècles. Et selon Jésus lui-même, cela suffit pour croire. Jésus ne s'est pas montré qu'aux disciples et qu'à quelques femmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul affirme que plus de 500 personnes ont vu Jésus-Christ ressuscité en même temps. Et il écrit cela moins de 20 ans après les faits, alors que beaucoup de ses témoins étaient encore en vie. Leur témoignage était public, vérifiable, et leur vie a été transformée. Ils ont proclamé la résurrection, parfois jusqu'à leur mort. Et pour faire ça, c'est qu'ils croient vraiment qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Pourquoi mourir pour quelqu'un, pour une histoire folle, n'est-ce pas? Mes amis, notre foi ne repose pas sur une légende, ni sur une rumeur. Elle s'appuie sur un événement historique public, attesté par des témoins crédibles. C'est ce que la Bible affirme. Et si nous croyons la Bible, c'est parce qu'elle est fiable. Une fiabilité soutenue par l'histoire, par l'archéologie qui ne cesse encore aujourd'hui de confirmer la précision et la conservation des manuscrits, la cohérence de son message, l'accomplissement de nombreuses prophéties, elles sont énormes. Et son fort impact sur des millions de vies dans le monde entier à travers les siècles. Qui sont les personnes qui ont été transformées par ce Jésus ressuscité? Tout cela atteste. Je n'aurais jamais été pasteur aujourd'hui, enfin encore aujourd'hui, en tout cas touché par la grâce et pasteur, si Jésus n'était pas venu dans ma vie, si je n'avais pas été touché par sa grâce. Je fonçais droit dans le mur pour être délinquant, jamais pour donner ma vie à Christ. Mais Christ est vivant. Il est ressuscité. Oui, Christ est vraiment ressuscité. Comment croire à la résurrection de Jésus-Christ sans voir? Deuxièmement, n'ayez crainte, je vais être court pour les deux prochains. Plaçons notre confiance en Jésus-Christ ressuscité. C'est un pas à faire. C'est un pas tellement important à faire. Vous dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité est insuffisant. Vous devez placer votre foi en Jésus pour recevoir sa vie en vous. Peut-être qu'avec ce que nous avons vu jusqu'ici, vous doutez encore, vous ne comprenez pas tout. Mais ce qui peut transformer votre regard, c'est de saisir pourquoi Jésus est mort et ressuscité. Pas juste, on sait qu'il est mort et ressuscité, mais pourquoi il est mort et ressuscité? Écoutons ce que Jésus dit à Marie, en Jean chapitre 20, donc verset 17. « Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Oh! Jésus n'avait pas l'air de parler comme cela avant, mais voilà que le ressuscité dit quelque chose de très fort à ses disciples. La résurrection n'est pas seulement un miracle spectaculaire, c'est le cœur du plan du salut. C'est par elle que nous sommes réconciliés avec Dieu. Grâce à la résurrection, Jésus appelle ses disciples ses frères. Ils deviennent enfants de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus veut pour nous aujourd'hui. À la croix, Jésus a porté nos fautes, notre rébellion, notre condamnation. Nous méritions tous la mort et l'enfer. Cependant, par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et ouvert l'accès à la présence de Dieu pour l'éternité. Si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, qui a tout accompli, nous recevrons son pardon, sa présence et la promesse du paradis. Alors si tu veux recevoir tout ce que Dieu veut t'offrir, son pardon, sa présence et la promesse du paradis, il t'invite dès maintenant à mettre ta confiance en Jésus, à croire qu'il est mort et ressuscité pour toi. Et pour cette démarche, il y a une prière qui va s'afficher. Et tu peux lui dire ces mots, lui parler simplement. Jésus, j'ai entendu que tu es mort pour moi, pour payer le prix de mes fautes. Merci infiniment. Je te demande pardon pour mes péchés, de m'être éloigné de toi, de t'avoir été rebelle, d'avoir été rebelle envers toi. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je crois que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Merci pour le pardon, pour ton pardon, ta présence et la vie éternelle que tu m'offres. Aide-moi à mieux te connaître, à marcher avec toi et à te laisser diriger ma vie. Amen. Alors, vous avez entendu cette prière pour vous qui n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus. C'est un moment sérieux aujourd'hui, pour vous. Ce n'est pas moi qui vous appelle, c'est Dieu qui vous appelle. Bien sûr, moi je le fais, mais c'est Dieu lui-même qui vous appelle ce matin. Alors, je vous invite à prendre cette prière maintenant, de nouveau avec moi. Prenons cette prière ensemble pour ceux qui veulent aujourd'hui placer leur confiance en Jésus. Peut-être tu ne comprends pas encore tout, mais tu veux déjà commencer ce pas. Alors fais ce pas avec cette prière. Jésus, j'ai entendu que tu es mort pour moi, pour payer le prix de mes fautes. Merci infiniment. Je te demande pardon pour mes péchés, de m'être éloigné de toi et d'avoir été rebelle envers toi. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je crois que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Merci pour ton pardon, ta présence et la vie éternelle que tu m'offres. Aide-moi à mieux te connaître, à marcher avec toi et à te laisser diriger ma vie. Amen. Dernier point. Comment croire à la résurrection de Jésus-Christ sans voir ? Laissons le Saint-Esprit nous éveiller à la foi. Éveiller en nous la foi. Jésus a soufflé sur eux. Il dit, après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit-Saint. Le souffle de Jésus n'est pas anodin ici. C'est un geste symbolique et prophétique, une annonce de la Pentecôte à venir. On va bientôt fêter cela aussi, hein. Ce n'est pas encore la plénitude du Saint-Esprit, mais une promesse incarnée. Par ce geste, Jésus rappelle à ses disciples que sans le Saint-Esprit, personne ne peut vraiment comprendre l'Évangile, ce que Jésus a fait. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut s'approcher de lui. Sans le Saint-Esprit, même les disciples ne peuvent pas accomplir leur mission. C'est une consolation au moment où Jésus souffle le Saint-Esprit, parce qu'ils se disent « Ah, oui, on en a besoin pour œuvrer pour lui. » L'Esprit est notre seul espoir pour accomplir ce que Dieu attend de nous, ce que nous ne pouvons faire par nos propres forces. Croire, obéir, témoigner de Jésus et voir des vies transformées, pour cela nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour toi qui doutes encore, peut-être que mettre ta confiance en Jésus-Christ te semble encore trop difficile. Et la prière de tout à l'heure n'était pas encore, tu t'étais pas encore prêt. Tu te dis, comment puis-je mettre ma confiance en lui alors que je ne comprends pas tout et que j'ai encore du mal à croire? Je te comprends et tu n'es pas le seul. La Bible elle-même te prend par la main et t'amène à, elle dit ceci, elle reconnaît que le message de la croix peut paraître une folie, comme une folie pour ceux qui croient, qui ne croient pas encore. Donc si tu trouves que c'est une folie, bienvenue au club. C'est une folie. On est d'accord. Mais laisse-toi toucher par Dieu. J'ai un encouragement pour toi. Aujourd'hui, nous avons plus de raisons de croire que Thomas. Ah bon? Ouais. Même si nous n'avons pas vu Jésus de nos yeux, nous l'avons vu tout à l'heure, la parole de Dieu transmise fidèlement à travers les siècles, mais aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en silence dans les cœurs pour attester que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il atteste. Alors, commence simplement en t'approchant de Dieu par la prière. Parle-lui simplement, dis-lui que tu veux le connaître, que tu aimerais comprendre comment t'approcher de lui. Exprime-lui tes doutes, tes questions, tes pensées, avec tes mots, et demande-lui d'éveiller en toi la foi. Cherche-le de tout ton cœur. La Bible dit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Il se laissera trouver. N'hésite pas aussi à venir nous voir à la fin du culte. Nous serions heureux de t'écouter, de prier avec toi et de t'accompagner dans ta recherche de Dieu. Recherche Dieu de tout ton cœur. Pour nous qui croyons, que notre foi devienne plus solide, enracinée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Avec ce que nous avons vu, que notre foi se nourrisse chaque jour de son amour manifesté à la croix. Je me rappellerai toujours de cette image que j'ai donnée récemment à un jeune, cette personne qui était entourée qui avait un volcan en éruption et puis il y avait ce jeune qui était là et qui allait mourir et un adulte qui était de l'autre côté en terre ferme. Mais lui, cet adulte pouvait faire un pont pour que cet enfant puisse aller sur lui et être sauvé, partir sur la terre ferme. Et moi, je vois dans cette scène cet homme qui se jette dans cette lave et je vois cet enfant qui saute sur cet homme pour aller en terre ferme. Est-ce que vous pensez que ce jeune va vivre normalement sans penser à cela? Impossible. Il restera marqué à vie par ce qui s'est passé. Chaque jour, il se dira: si je vis, c'est parce qu'un homme a donné sa vie pour moi. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Ne laisse rien te faire oublier ce message. Ne laisse rien enlever, qu'on ne soit pas neutre face au message de l'Évangile, mais qui continue à nous toucher, à nous bouleverser, à nous transformer. Que notre foi se nourrisse chaque jour de l'Évangile, de la parole aussi qui est la vérité, et aussi de l'action constante du Saint-Esprit qui nous équipe pour lui obéir, parler de lui et voir des vies transformées. Nous avons besoin sans cesse du Saint-Esprit et cela se traduira toujours par la prière qui dit tout simplement à Dieu chaque jour: Jésus, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Aide-moi à vivre la vie chrétienne. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à faire ta volonté. Parce que quand on ne fait pas ça, c'est comme si on disait à Dieu: je peux vivre la vie chrétienne sans toi. Mais je dirais toujours ici, la vie chrétienne est une vie de miracle. Et donc, vivons cette vie de miracle en dépendant sans cesse du Saint-Esprit. Réjouissons-nous les amis, Christ est ressuscité. Et par son esprit, il agit encore aujourd'hui puissamment. Je conclus, comment croire à la résurrection de Jésus-Christ sans voir? Appuyons-nous sur la parole de Dieu qui nous donne des faits historiques solides. Plaçons aussi notre confiance en Jésus-Christ ressuscité. Et enfin, laissons le Saint-Esprit éveiller en nous la foi. Jean conclut son récit avec ces mots puissants. Écoutez ces paroles parce que là, j'allais dire, c'est de la bombe. Je l'ai dit. Verset 31. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Il a écrit ça, pas pour les gens qui voient Jésus là, mais pour toutes les générations. Tout l'évangile de Jean est écrit pour cela. Croire sans voir, c'est précisément le but de tout l'évangile. Une foi fondée sur la parole de Dieu, rendue vivante par le Christ ressuscité, et éveillée, nourrie et fortifiée par le Saint-Esprit. Prions. Un immense merci à toi, notre Dieu, d'être venu en la personne de Jésus-Christ pour nous sauver. Nous méritons tous la mort et l'enfer. À cause de nos fautes, à cause de nos désobéissances, à cause de notre rébellion contre toi. Mais par ta mort et ta résurrection, tu nous offres le pardon, ta présence et la vie éternelle. Un immense merci. Gloire à toi. Continue à te révéler dans le monde entier. Touche les cœurs, que ceux qui te cherchent te trouvent, qui disent oui à ta grâce, expérimentent ton amour et vivent pour toi. Bouleverse encore nos vies par ce que tu as accompli à la croix. Que notre foi devienne chaque jour plus solide. Que nous soyons nourris sans cesse par ton amour manifesté à la croix, par ta parole qui est la vérité. Et que ton esprit continue à nous transformer, à nous équiper pour t'obéir, parler de toi et voir des vies transformées. Sois à jamais glorifié, honoré pour ton immense amour révélé à la croix. Nous t'aimons, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen.